Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Vous publiez d'ailleurs de nouveaux livres. Beaucoup de points que j'aimerais voir avec vous, mais je voudrais d'abord commencer par ces questions de sécurité. J'allais initialement vous interroger sur ces rodéos sauvages, mais évidemment, ce qu'il s'est passé hier soir, on est dans un tribunal. Dans une salle de tribunal, là où l'on rend la loi. Et ces images que l'on voit sur BFM TV, que je décris pour vous qui nous écoutez sur RMC, à la fin d'une journée d'audience, une rixe géante au sein même du tribunal de Bordeaux, avec une bagarre non seulement d'une extrême violence, mais armée. Certains qui commencent à se battre portent des gants coquets. Ils commencent par se battre dans un sas entre la salle d'audience et la salle des pas perdus, puis dans la salle d'audience elle-même, sous les yeux des policiers, des agents de sécurité. L'un des fonctionnaires a d'ailleurs été violenté. De ma vie d'avocat, je n'ai jamais vu un tel déferlement de violence dans une salle d'audience. Voilà ce que dit l'un des avocats de la victime, l'avocat qui était justement dans ce tribunal. Alain Bauer, qu'est-ce que ça dit ?
Alors d'abord, on a la chance de le voir, mais ça n'est pas la première rixe dans les tribunaux, autour des tribunaux, ni de menaces vis-à-vis des magistrats dans leur propre salle d'audience ou d'interrogatoire, qui souligne depuis des mois le nombre de menaces dont ils font l'objet en présence des policiers, des gendarmes, du greffier, des avocats, sous l'œil incrédule et halluciné de ceux qui sont présents, alors que les prévenus, ou parfois même des condamnés ou des récidivistes, indiquent qu'ils sont prêts à faire la peau à magistrates, souvent des femmes d'ailleurs, à leurs enfants, qu'ils les menacent. Vous avez vu ça avec les agents de l'administration pénitentiaire, chez eux, et pas seulement à l'intérieur des maisons d'arrêt. Donc il y a une augmentation du niveau de violence interne, de rapport de force contre l'État, dans un pays qui, pour les mafieux, par exemple, a toujours été considéré comme un pays où il ne fallait pas jouer avec le système tellement il était fort et puissant. Son effondrement policier et pénitentiaire et pénal, la suppression de la peur de l'État, la perte de contrôle du ce qu'on appelait le surmoi, c'est-à-dire le fait de ne pas aller trop loin, car l'État allait répondre.
Les limites. Redouter l'autorité.
Voilà, et tout ça a disparu petit à petit, au rythme de l'expansion et de l'enracinement du trafic de stupéfiants, du rajeunissement des auteurs, qui font y compris peur aux vieux crimes organisés français. Quand vous discutez aux anciens parrains, qui n'existent plus quasiment en France, ils ont peur de la nouvelle génération. Ils disent eux-mêmes que la nouvelle génération les écoute plus ou moins, et dès qu'il y a un début de commencement de « non mais il faut pas aller trop loin », leur dit « t'es gentil papy, rentre à la maison » et entre dans un rapport de force violent qui non seulement se traduit par une relation difficile, voire violente avec les policiers et les gendarmes lorsque ceux-ci interviennent, mais même par des guet-apens et des préméditations visant à interdire des plans entiers du territoire aux forces de l'ordre.
Alain Bauer, vous créez une sorte de lien, enfin vous voyez un fil entre ce qui s'est passé hier soir à l'intérieur même de la maison de la loi.
Oui,
c'est quand même ça qu'il faut mesurer.
Séance de cour d'assises.
La semaine d'avant, ce week-end, c'est un pompier qui a été visé délibérément par un jeune qui menait un rodéo sauvage, qui l'a percuté dans le dos, devant une caserne, qui est revenu sur ses pas pour lui cracher dessus. La semaine qui précédait, c'était un autre rodéo sauvage et un élu municipal qui était tabassé jusqu'à perdre connaissance. La semaine encore d'avant, c'était les prisons, ce que vous évoquez à l'instant. Les surveillants pénitentiaires, parfois intimidés jusque chez eux. Est-ce que c'est un hasard du calendrier ? Est-ce que c'est nous, les journalistes, qui décidons de pointer ce genre de fait ? Ou est-ce que, vous qui analysez les données et les chiffres, est-ce qu'il y a un véritable phénomène où, au fond, il n'y a plus de limites, voire même l'État, ses représentants dont je viens de parler, sont aujourd'hui ciblés ?
Alors, pendant longtemps, on expliquait qu'il s'agissait de faits divers isolés et que tout ceci se concentrait sur une invention sociolatrique. La sociologie est une belle science, la sociolatrie est un culte qui est dangereux, c'est ce qu'on appelait le sentiment d'insécurité. En fait, on n'était pas en insécurité, mais on croyait qu'on était en sécurité. C'était votre faute. Et la nôtre aussi, d'ailleurs.
Quand vous dites votre faute, vous, monsieur,
vous, les journalistes,
vous me pointez du doigt.
Vous,
c'est-à-dire,
les journalistes.
On disait, bon, ça, c'est la faute des journalistes.
Voilà.
Ils ont qu'à pas en parler.
Mais quand on lit au quotidien tout ce qui se passe, tous les matins, il y a un relevé du fait divers de la journée. Ou de la nuit.
Au ministère
surtout.
De l'Intérieur.
Oui,
chaque matin, ils ont
journaux,
le relevé de ce qui s'est passé la nuit.
Et vous voyez augmenter à la fois le nombre et surtout la violence des phénomènes. Et peu à peu, on avait un indicateur qui, lui, est indiscutable. C'est les homicides. Je suis venu en parler à plusieurs reprises chez vous. Tous les ans, fin janvier, je viens vous faire le bilan des homicides et surtout des tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés. Soit par l'incompétence des tireurs, grâce leur soit rendue, soit par l'efficacité des services de secours, et on les remercie. Nous n'avons jamais atteint un niveau aussi élevé depuis un demi-siècle qu'en 2024. L'année 2025 n'est pas meilleure. Elle n'est pas meilleure en homicide, elle n'est pas meilleure en homicidité, les tentatives d'homicide, elle n'est pas meilleure sur le rajeunissement des auteurs et des victimes, et elle n'est pas meilleure non plus sur l'augmentation des violences en matière de terrorisme. Le procureur national antiterroriste, ce matin, vient de faire un bilan marquant la dégradation rapide du nombre d'affaires et du nombre de mineurs mis en cause dans les affaires et du nombre de menaces qu'il est en train de traiter à la fois au niveau international et au niveau national.
Ça veut dire, Alain Boer, que à la liste que je viens d'énoncer des différents faits qui impliquaient des représentants de l'État ou de la loi, vous ajoutez ce constat donc fait par le procureur national antiterroriste, ce sont nos confrères du Figaro qui le relatent ce matin, qui parlent d'une menace terroriste avec notamment un rajeunissement des auteurs de ces menaces qui, fort heureusement, sont le plus souvent déjoués. C'est un phénomène français ou c'est un phénomène européen ?
Alors, c'est un phénomène global, mais plus particulièrement français, car on est toujours le pays qui est le plus visé et le plus concerné. C'est-à-dire que quand vous prenez l'intégralité des éléments pris en compte par Europol, la France, c'est la moitié de ce qui se passe en Europe. Alors que c'est pas la France, c'est 60 millions d'habitants sur 400 et quelques millions. Donc on sent bien qu'il y a un élément plus particulièrement pointu en France et que on est en train de vivre ce phénomène. Alors c'est particulièrement lié à l'environnement international, mais pas seulement. Le rajeunissement est un vrai problème. Le rajeunissement sur les ultras de toute nature, sur les déterminés à passer à l'acte de toute nature, y compris de très jeunes gens assassinant d'autres très jeunes gens, pas seulement pour des motifs amoureux ou religieux, mais pour des motifs, par exemple, de fin du monde ou de fin de la technique, avec des arguments, des textes qui ressortent. Et qu'on
et là,
a
vous
pas
parlez
vu
aussi de ce qui s'est passé
Kaczynski.
Notamment à Nantes.
Oui.
Alain Boer, lorsque l'on regarde dans le détail, et notamment sur ce qu'il s'est passé pour ce rodéo sauvage et ce pompier qui, au moment où on se parle, est toujours entre la vie et la mort. L'auteur présumé de ces faits, qui a été arrêté et qui est aujourd'hui, qui a été présenté à un juge, il avait 15 mentions à son casier judiciaire. Ça fait des années qu'il avait une sorte de carrière dans la délinquance. Et sur ces 15 mentions au casier judiciaire, en tout et pour tout, il n'avait fait que 6 jours de prison. Il y avait eu d'autres mesures qui lui avaient été soi-disant imposées, mais qui en réalité n'ont jamais été véritablement appliquées, comme par exemple un suivi de soins. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir une sorte de sentiment d'impunité jusqu'à ce qu'un jeune homme, non seulement renverse un pompier, mais retourne sur les faits pour lui cracher dessus, alors qu'il a déjà 15 mentions dans son casier judiciaire?
C'est tout le problème. Nous avons créé un système qui est passé d'un extrême, la punition pour tout et pour tous, à l'excuse. Des tentatives désespérées de comprendre le social, le sanitaire, l'environnement familial, etc. Mais sans aucune mesure, et surtout avec des alternatives aux poursuites, des alternatives aux peines et des dispositifs qui sont surtout marqués par l'immense misère du système judiciaire français. Très peu de magistrats, très peu de moyens, quasiment pas de prévention, ni sociale, un peu plus situationnelle, c'est-à-dire la prévention pour la dissuasion plutôt. Et puis une situation où chacun se lamente, c'est un concours de lamentation, mais personne ne prend de responsabilité. Et ensuite, on dit toujours que c'est la faute des magistrats qui ne font qu'appliquer la loi, votée par des parlementaires qui découvrent régulièrement ce qu'ils ont voté et surtout les effets de ce qu'ils ont fait. Alors, de temps en temps, les parlementaires font un formidable travail, la commission sur le narcotrafic scientifique a été absolument remarquable, mais dès qu'on entre dans l'application de la loi...
La loi sur le narcotrafic donne-t-elle aujourd'hui les moyens de lutter contre ce fléau ?
Un peu plus, mais pas beaucoup. Et surtout, elle ne traite pas du premier sujet, les malades. Pardon, les consommateurs qui devraient être considérés comme des malades. Ça fait, Claude Lievenstein a expliqué ça il y a 50 ans, mais personne n'a jamais traité de la dimension du consommateur. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafic.
C'est un problème de santé, c'est un problème de prévention.
C'est aussi un problème
de santé. Ce volet-là n'est pas traité.
Ben non. Nulle part. Et donc, on traite des conséquences, mais pas des causes. Alors, il faut traiter du dealer en le punissant, il faut traiter du réseau de distribution en le démantelant, mais il faut traiter du consommateur. Pas de consommateur, pas de trafic.
La réponse politique, lorsque vous entendez la semaine dernière le maire de Clermont-Ferrand. Le maire de Clermont-Ferrand, il est socialiste, il est maire depuis très longtemps. Il a longtemps été socialiste, qu'aujourd'hui, il est un dissident. Mais est-ce que aujourd'hui, lorsqu'un maire, comme le maire de Clermont-Ferrand dit, j'ai péché par une forme d'idéologie,
oui, de naïveté,
et il en vient aujourd'hui à promettre, s'il est réélu, de mettre des policiers municipaux, ce à quoi il s'était toujours opposé. Il n'est pas le seul, hein, le maire de Lyon, le maire de Bordeaux se pose exactement la même question aujourd'hui. Il dit, nous devons faire preuve de pragmatisme. Est-ce que ça veut dire qu'une ville comme Clermont-Ferrand, qui jusqu'alors était hors des écrans radars des questions de sécurité, est comme Limoges, comme Nantes, comme Rennes, comme Bordeaux ou comme Lyon, désormais un lieu dans lequel les questions de sécurité sont primordiales?
Le principe de réalité s'impose à tous et le maire, c'est l'élu le plus proche à portée de baf, comme disait l'autre, des citoyens. Ils se rendent bien compte de ce qu'est la demande des citoyens. Or, le fait de ne jamais répondre à la question qui est posée au nom du fait que, pour des raisons morales, il faut pas le faire, c'est pas bien, etc., ne règle pas la question. La complexité des problèmes montre qu'il faut traiter à la fois le social, l'éducatif, le préventif et le répressif. Mais on peut pas juste trouver une excuse absolutoire sur le thème pauvre petit, avec un petit coup de remords colonial pour dire et en plus ils sont tous issus de l'immigration et surtout faut rien les faire parce que ils ont tant subi avant. Donc culture de l'excuse, mais qui ne règle pas le problème du quotidien, y compris des familles de ces mineurs qui elles-mêmes en ont peur, ou le tout répressif sans tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui sont effectivement nés de l'histoire et de l'accompagnement, notamment scolaire. Et puis nous avons un processus qui est terrifiant, qui est que la seule réponse que nous avons aux problématiques, par exemple, de violence dans le système scolaire, c'est l'exclusion. C'est-à-dire la prime à l'emmerdeur où on le met dehors dans la rue pour qu'il en fasse plus. Nous avons un problème majeur de compréhension des injonctions contradictoires qui sont les nôtres. Nous sommes devenus trop gentils et trop compréhensifs sur de nombreux sujets sans prendre en compte la dimension de la violence dans la société, la violence physique. Et en même temps, nous nous étonnons des effets de ce que nous-mêmes n'osons pas faire. Il y a un côté de lâcheté, il y a un côté d'incompréhension, il y a un côté très... On a été trop dur et on est devenu trop mou. La France est un pays qui aime bien les extrêmes et qui a le plus grand mal à faire une sorte de d'équilibre dans le dispositif préventif dissuasif.
Alain Boer, dans ce cadre-là, hier, un rapport sur la surpopulation carcérale, qui est un rapport qui avait été demandé par l'éphémère ministre de la Justice Didier Migaud, tire le signal d'alarme, dit nous sommes dans une situation d'extrême urgence où la surpopulation carcérale est en moyenne déjà très excessive, mais parfois dans certaines prisons on est à 200% de taux d'occupation. L'Observatoire des prisons dit il faudrait une forme de quasi grâce généralisée, libérer les prisons, sortir un grand nombre de prisonniers, point barre, pour repartir en quelque sorte à zéro. Est-ce que c'est une solution envisageable, audible, ou est-ce que ce serait un danger ?
Il paraît que la politique, c'est le courage. Donc, c'est un moment où il faut en faire un peu. La question qui est posée, c'est qui va en prison ? Quand on va en prison et dans quelles conditions on va en prison ? Nous avons supprimé les courtes peines, donc nous ne savons pas traiter rapidement et efficacement en quelques jours du dispositif de glissement vieillesse technicité de la prison. La prison est l'école du crime. Quand ça elle arrive trop tard, à la 40e condamnation, quand on n'a rien fait ou qu'on a cru qu'on allait faire des choses et qu'on repousse, et que tout d'un coup on met en prison pour des peines de plus en plus longues et pour des actes de plus en plus graves et pour des gens de plus en plus jeunes. Et donc le problème de la prison, c'est qu'aujourd'hui, officiellement, dans le code pénal, c'est prison pour tout et pour tous. Ça ne marche pas. Donc on est dans des complications entre l'alternative aux poursuites, l'alternative aux peines, l'alternative à l'emprisonnement,
mais en attendant,
qui ne marche pas.
En attendant,
les gens qui ne sont pas poursuivis condamnés et emprisonnés pour des actes de violence graves n'ont rien à faire en prison. Rien. Ça ne sert à rien. Soit faut les frapper au portefeuille, soit faut les mettre sous bracelet électronique, soit faut créer les conditions d'un véritable suivi judiciaire en revalorisant la filière qui est celle justement de tout ce qui est hors prison. Et puis il y a une deuxième partie qu'effectivement il devrait y avoir 100 000 places de prison en France. Tout le monde le dit. Il y a 40 ans, un rapport sur la surpopulation pénale expliquait exactement la même chose et on n'a pas fait beaucoup plus parce que personne, tout le monde veut qu'ils mettent des gens en prison, mais personne veut de prison à côté de chez lui.
Alain Bauer, je voudrais signaler également la sortie de vos deux derniers livres, Opération Zelensky et Menace sur Taïwan. Opération Zelensky, c'est sous forme de roman, quasiment la renaissance de SAS. Ce sont des romans ancrés dans la réalité que vous observez au quotidien de la défense, des relations géopolitiques. Opération Zelensky, est-ce que ça pourrait être le titre aussi de ce qui pourrait se jouer jeudi en Turquie, est-ce qu'on est à l'aube d'un moment peut-être historique?
Alors, ça raconte d'abord tout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne dit pas, mais qu'on susurre dans ceux qui pensent savoir des choses. Et donc, tout est vrai, un peu de fiction tout autour. Arnaud Demarche a très bien expliqué ça chez vous
sur
ce matin.
Sur AMC tout à l'heure.
Voilà. Alors, j'ai gardé le Power of Bauer comme titre du volume 3. Non, je dis ça en rigolant. Mais sur le fond, c'est ça. Et en fait, on découvre que, par exemple, les négociations d'Istanbul, elles n'ont jamais cessé. Il y a régulièrement à Istanbul des réunions avec le parrain ottoman, hein, parce que nous on dit les Turcs, mais eux c'est l'Empire ottoman, et donc ces discussions continuent derrière le rideau, on avance, on recule, un coup on se dit ah peut-être qu'on va y arriver, on organise le transfert des céréales pendant la guerre, on carte quand même des achats de gaz pendant la guerre, on autorise une flotte fantôme russe à exister pendant la guerre. Bref, il y a des accommodements, mais dont on ne parle jamais. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord révéler les petits secrets de ce qui se passe derrière le rideau, et puis de montrer comment tout ceci allait progresser. Alors, bien sûr, il va y avoir une négociation. Et le fait que Donald Trump dise « Je serai peut-être à Istanbul » va inciter Vladimir Poutine à dire « Bah, je vais peut-être être obligé d'aller à Istanbul aussi, parce que je suis enfermé dans ça. » Et la stratégie disruptive, ce qu'on appellerait une diplomatie de rupture. C'est Jacques Vergès avait expliqué qu'il faisait de la défense de rupture pour perturber le système. Donald Trump, en fait, fait une diplomatie de rupture très étonnante, très perturbante pour nous, très rationnelle. Lui, c'est très autre chose. Je reviens d'un mois aux États-Unis, je peux dire que c'est assez intéressant à vivre au quotidien. Mais il va se passer à Istanbul toute une série d'éléments. Mais l'important pour Vladimir Poutine, c'est que il est en train de perdre doucement et il voudrait gagner rapidement. Donc, obtenir la validation de tout ce qu'il a déjà comme un fait acquis absolu et définitif. Il a obtenu la Crimée dans sa tête. Il veut obtenir la réalité, l'affirmation de tout ce qu'il occupe déjà. Et puis, le fait que ça soit validé dans le marbre.
Et ça se jouera, peut-être.
C'est ce qui va se jouer. Et je crois que ça va le faire. Et dans Menace sur Taïwan, je raconte ce qui va se produire. C'est-à-dire le fait que le président Xi Jinping, dans un très long interview qui n'a jamais été cité en France, mais qui mériterait de l'être, dit « Non mais Taïwan, c'est l'objectif prochain et d'ailleurs je suis d'accord avec Poutine ».
Et ça pourrait être donc l'acte 2. Alain Bauer, un dernier mot, parce que la dernière fois que je vous avais reçu, c'était le 4 mars dernier, et c'est la première fois que vous revenez sur un plateau depuis, vous étiez aux États-Unis, vous l'avez dit. Le lendemain du jour où je vous ai reçu, le 5 mars, vous aviez été condamné, ainsi que l'ancien PDG du groupe ADP Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, et l'ancien secrétaire général de l'Élysée, en effet, Jean-Pierre Jouyet, tous deux anciens dirigeants de la Caisse des dépôts, accusés de favoritisme ou de contrat de complaisance. Vous avez été condamné à 12 mois de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende. Vous aviez ensuite écrit une lettre sur les réseaux sociaux où vous disiez être victime d'une justice aveugle. Avec le recul, comment est-ce que vous jugez cette justice aveugle et comment vous allez ?
Bon, sur le moment, le choc est un peu difficile. Vous savez, c'est un peu le problème du cordonnier mal chaussé. Je passe ma vie à gérer les crises des autres. J'étais pas tout à fait prêt à gérer la mienne. Alors je vais mieux. Après, faut le digérer quand même. Faut le digérer d'autant plus qu'en fait, il y a deux morceaux dans cette affaire. Il y a le morceau le fond. Est-ce qu'on a bien fait tout ce qu'on devait faire? Réponse oui. Donc j'ai été moitié relaxé, comme les autres d'ailleurs, et puis condamné sur l'application d'une procédure qui est celle de la Caisse des dépôts, écrite par quelqu'un qui était aussi le rédacteur du Code des marchés publics et dont la justice a estimé qu'elle n'avait pas été bien suivie. Voilà, donc tout le monde est parti en appel. et on fait confiance au dispositif pour réparer ses propres erreurs ou ses propres injustices. Il arrive que la justice se trompe, il arrive qu'elle ait raison. Mais sur le moment, quand on est persuadé d'avoir tout bien fait comme il faut, on a ce petit choc particulier d'avoir du mal à accepter une décision, d'autant que, par exemple, à ce jour, moi, je n'ai toujours pas eu le jugement. Je n'en ai que l'écho lointain de, et après avoir dit, vous pourriez nous préciser exactement ce qui se passe, on dit, non, mais en fait, vous avez été surtout beaucoup relaxé sur le fond, mais par contre, sur la procédure, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Et nous allons essayer avec tous les avocats, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette affaire. Hein. Moi, je ne suis qu'un élément un peu secondaire, je suis le bénéficiaire de la procédure. Ouais.
Non, de bénéficier de la procédure. En tout cas, vous avez fait appel.
Oui.
Et vous êtes là ce matin. Merci.
Absolument.
Alain Boer d'avoir répondu à mes questions et je recommande votre livre Opération Zelensky. Il est 8h53 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV.